Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 21 août 2014. En direct de Washington, Idrissa Sidoutia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
En Afrique de l'Ouest, l'épidémie d'Ebola a fait jusqu'ici 1350 morts, selon le dernier bilan de l'OMS.
L'Union nationale des travailleurs du Mali entame à partir d'aujourd'hui une grève de 48 heures sur l'ensemble du territoire malien.
Au Nigeria, des soldats refusent d'aller au front pour se battre contre Boko Haram.
Les États-Unis ont tenté sans succès de secourir des otages américains en Syrie, a annoncé le Pentagone.
Washington a poursuivi hier ses raids aériens en Irak, malgré la menace de l'État islamique d'exécuter un autre journaliste américain.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé Israël et les Palestiniens à reprendre leur pourparlers du Caire.
Et nouvelle manifestation hier soir à Ferguson, dans le Missouri.
Ne manquez pas la musique de Roger Muntou et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait 106 autres morts, portant le bilan à 1350. Ces derniers chiffres ont été publiés hier par l'Organisation mondiale de la santé, qui a signalé 221 nouveaux cas pour un total d'un peu moins de 2500 au Libéria, en Guinée, au Nigeria et en Sierra Leone. Pendant ce temps, au Libéria, deux quartiers de la banlieue de Monrovia, la capitale, ont été placés en quarantaine dans une tentative d'enrayer l'épidémie. La police a usé de balles et de gaz lacrymogènes pour disperser des protestataires qui lançaient des pierres. Ces derniers manifestaient leur mécontentement face à la fermeture soudaine des routes d'accès et de sortie de leur quartier. Selon des témoins, au moins 4 personnes ont été blessées. C'est au Libéria que l'OMS a signalé 90% des plus récents décès.
Et en Guinée, deux nouveaux cas probables de décès dus au virus Ebola ont été enregistrés mardi à Kérouané, dans le nord-ouest du pays. À Conakry, la capitale, la situation semble stable. Les services de santé guinéens surveillent au moins 800 personnes et traitent 47 malades, nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Les deux cas de Kérouané sont une femme et son enfant qui ont séjourné à Macenta dans le quartier Patrice, où de nombreux cas confirmés suspects ont été enregistrés depuis une semaine. Selon un communiqué des services de santé, la recherche active des cas et contacts sont en cours dans le dit quartier. Le ministère de la Santé a mobilisé véhicules et motos pour renforcer la logistique dans les préfectures frontalières et autres points d'entrée. À noter que si l'évolution de la maladie s'en stable à Conakry, Gekedou, Pita, Zérékoré et Yomou. La situation est tout autre à Macenta où l'on assiste à une recrudescence du nombre de cas. On parle de 25 confirmés, 9 suspects et près de 200 personnes à surveiller. Sur l'ensemble du pays, les derniers chiffres du mardi donnent 47 cas confirmés, 27 suspects et au moins 800 personnes à surveiller. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Un nouveau traitement permet de protéger les singes contre le virus de Marburg, proche de celui d'Ebola. Des détails avec Camille Grosdidier.
Des essais cliniques sont d'ailleurs en cours sur un traitement similaire contre le virus d'Ebola. Mais en ce qui concerne le virus de Marburg, une étude menée par des chercheurs de l'Université du Texas à Galveston et par la société pharmaceutique Tecmira Pharmaceuticals est la première à s'être penchée sur l'efficacité du médicament après l'apparition des symptômes de Marburg. Les chercheurs ont constaté que le composé mis au point avait permis de guérir 16 macaques rhésus infectés par le virus de Marburg. De surcroît, il était possible de traiter les sujets jusqu'à 3 jours après l'infection quand le virus est détectable par test et qu'apparaissent les premiers symptômes. Selon Thomas Gespert, professeur de microbiologie à l'Université du Texas qui a dirigé l'étude, ce composé de gènes de l'ADN du virus entrave sa reproduction dans le corps. Le médicament protège contre un certain nombre de différentes souches du virus de Marburg, mais ne pourrait pas arrêter le virus d'Ebola. Cependant, a poursuivi le professeur Gespert, des essais cliniques ont commencé pour évaluer un autre composé capable, lui, de bloquer le virus d'Ebola.
Au Nigeria, des soldats ont refusé de participer à une opération contre Boko Haram dans le nord-est. Ils exigent d'être équipés de meilleures armes, Sarah Diaby.
L'incident s'est produit samedi. Des soldats de la 21e brigade blindée avaient reçu l'ordre de se diriger vers Gwoza et Dewa, deux localités de l'état de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste. Ces militaires ont refusé d'obéir tant qu'ils n'auraient pas les deux véhicules blindés de transport de troupes initialement affectés à l'opération. Les soldats se sont confiés hier aux médias à Maiduguri sous couvert d'anonymat. Dans une déclaration à la VOA, le porte-parole de l'armée nigériane Chris Olukolade a dit qu'il ignorait tout de l'incident et a démenti les rumeurs de mutinerie, affirmant, je cite, « Nos soldats sont trop rigoureux et patriotes pour se livrer à une infraction aussi grave ». Le Nigeria est en guerre contre Boko Haram, responsable présumé des milliers de morts au cours des 5 dernières années. Les observateurs affirment que les militants islamistes semblent mieux armés que l'armée et les autres forces de sécurité. Les épouses des soldats de la 21e brigade blindée ont déjà bloqué au début du mois la caserne pour empêcher leur époux de se déployer à Gwoza.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Pentagone dit avoir tenté sans succès de secourir les Américains gardés en otage en Syrie par l'État islamique, dont le journaliste James Foley qui a été décapité. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré sans autre précision que la mission avait échoué parce que les otages ne se trouvaient pas à l'endroit visé.
Selon un haut responsable américain, la mission de sauvetage avait été autorisée cet été par le président Barack Obama. Il s'agissait, a-t-il dit, d'une opération compliquée, ajoutant qu'il y a eu échange de tirs entre forces américaines et militants de l'État islamique et qu'un Américain a été légèrement blessé. Réagissant au meurtre de James Foley, le président Obama a déclaré que la vidéo de la décapitation du journaliste choque la conscience du monde entier. Les États-Unis, a-t-il assuré, continueront de faire ce qu'ils doivent faire pour protéger les Américains.
Et en dépit de la menace de l'État islamique d'exécuter un autre journaliste américain, l'aviation américaine a poursuivi hier ses raids contre les djihadistes en Irak. Par ailleurs, le Pentagone envisage d'envoyer un peu moins de 300 soldats supplémentaires à Bagdad. Les précisions de Lola Akomachri.
Les frappes aériennes d'hier sont intervenues quelques heures seulement après la publication par l'État islamique d'une vidéo montrant la décapitation du journaliste américain James Foley. Dans cette vidéo, les militants menacent de tuer un autre journaliste américain, Steven Sutloff, si les États-Unis ne cessent pas leur intervention en Irak. Réagissant au meurtre de Foley hier, le président Barack Obama a qualifié le groupe islamiste de cancer qu'il a appelé les peuples et gouvernements du Moyen-Orient à extirper. Le chef de l'exécutif américain a aussi fait savoir que son pays poursuivra ses raids aériens contre les djihadistes en Irak. Pour l'heure, le Pentagone n'a pas finalisé la décision d'envoyer des renforts à Bagdad. Le meurtre du journaliste James Foley a été condamné par les leaders mondiaux, notamment le secrétaire général de l'ONU, les leaders d'Allemagne, de France et de la Grande-Bretagne. Au moins 54 journalistes ont été tués depuis 2012 alors qu'ils couvraient le conflit en Syrie. Et selon le Comité pour la protection des journalistes, une vingtaine d'autres confrères seraient détenus par des militants.
Il y a eu des dizaines d'attaques entre Israël et le Hamas hier, dont un raid aérien israélien qui a tué la femme et le bébé d'un leader militaire de la milice islamiste à Gaza. Mohamed Deif a lui-même échappé à la mort. Le ministre israélien de l'Intérieur a précisé qu'il sera encore la cible d'Israël, pendant que des milliers de Palestiniens participant aux obsèques de sa femme et du bébé appelaient à la vengeance. Quant au premier ministre Benjamin Netanyahou, il a averti qu'Israël poursuivra sa campagne à Gaza jusqu'à l'instauration du calme et de la sécurité pour tous les citoyens d'Israël. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa grave préoccupation face à la reprise de la violence à Gaza. Tous ses 15 membres ont appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiatement et à la reprise des pourparlers pour une trêve durable.
À Ferguson, dans le Missouri, il y a eu hier soir de nouvelles manifestations qui semblaient relativement pacifiques. Cette banlieue de Saint-Louis est le théâtre depuis 11 jours de troubles depuis qu'un policier blanc, Darren Wilson, a abattu Michael Brown, un adolescent noir non armé, le 9 août dernier. Le St. Louis Post-Dispatch a signalé que deux manifestants se sont présentés avec des pancartes pro-Darrell Wilson. Ils ont été conspués. Le ministre de la Justice, l'attorney general Eric Holder, a rencontré hier à Ferguson les leaders de la communauté et ses habitants pour les rassurer quant à l'enquête ouverte par le gouvernement fédéral.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, La Voix de l'Amérique. L'Union nationale des travailleurs du Mali entame à partir d'aujourd'hui une grève de 48 heures sur l'ensemble du territoire malien. Cette grève fait suite à l'échec des négociations entre le gouvernement et la centrale syndicale. Notre correspondant Kassim Traoré revient sur l'échec de ces négociations.
Cela fait plus de 5 mois que les travailleurs du Mali ont déposé leur cahier de doléances en 17 points sur la table du gouvernement. Et c'est le vendredi dernier que le gouvernement du Mali a décidé d'entamer les négociations avec les travailleurs. Mouloud Ben Katra, secrétaire général adjoint de l'UNTM.
Je parle aujourd'hui pour dire qu'aux travailleurs du Mali, que ceux sur lesquels j'avais espoir de la part du gouvernement, je ne l'ai pas eu. Et nous maintenons notre grève prévue le 21 et le 22 août. Ce point tourne surtout sur le SMIC, le salaire minimum intergaranti professionnel. Vous le savez bien que beaucoup de travailleurs de notre pays sont payés en deçà des 28 000. L'UNTM a demandé que ça soit relevé significativement. Nous n'avons pas eu gain de cause. Nous avons demandé également les allocations familiales. Jusqu'à présent, les allocations familiales sont de 1 500 francs.
Du côté du gouvernement malien, l'on pense que l'UNTM a eu satisfaction de 12 points sur les 17. Et les points de blocage sont des anciennes doléances. Bokar Moussa Diarra, ministre de la fonction publique et des relations avec les institutions.
Le premier point de ces 17 points est un point concernant la mise en œuvre des 16 anciens points de 2011. C'est-à-dire que le protocole de 2011 est une revendication que nous avons trouvée sur la table du gouvernement. Des engagements bouclés qui n'ont pas pu être mis en œuvre à cause de la crise. Et donc, comment on peut interpréter ça?
Ce mercredi matin, au cours d'un meeting d'information, les membres du bureau exécutif national de l'UNTM sont revenus sur les points qui n'ont pas eu de satisfaction. Mouloud Ben Katra, secrétaire général adjoint de l'UNTM.
Nous avons conclu un accord en 2007 sur la baisse des tarifs d'eau et d'électricité. Le gouvernement a refusé de revoir à la baisse les tarifs d'eau et d'électricité. Voilà un certain nombre de points dont notre vie est liée et que le gouvernement a catégoriquement rejeté. Tous les autres points que le gouvernement vous dit, il y a accord, ce ne sont que des accords uniquement sur des littératures. Pour nous, c'est ce qui fait notre vie. Et nous sommes venus pour avoir quelque chose pour les travailleurs du Mali. Sur ça, nous l'avons pas eu, le combat continue. La grève est maintenue pour le 21-22. Nous demandons aux travailleurs d'être mobilisés, d'être vigilants.
Le ministre de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions, a fait savoir que la grève de 48 heures ne concerne que les travailleurs affiliés à l'UNTM. Bokar Moussa Diarra.
L'UNTM a ses adhérents. Les autres centrales ont leurs adhérents. Le dossier que porte l'UNTM est un dossier qui concerne ses adhérents. Et donc, s'il prononce un préavis de grève ou bien s'il va en grève, il ne peut que compter que sur ses militants. Donc, le mode de grève de l'UNTM ne concerne que les militants qui se reconnaissent dans l'UNTM.
Quant au groupe des facilitateurs des négociations, ils ne désespèrent pas.
L'UNTM, le gouvernement se mettront à table pour revoir les questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord et ensemble de trouver une solution dans l'intérêt du monde du travail.
En plus de l'administration malienne, le secteur du transport, des banques et des hôpitaux seront aussi paralysés. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Pour rester au Mali, Amnesty International dénonce les violations des droits de l'homme des mineurs au Mali. Certains sont recrutés comme enfants soldats par des milices, d'autres sont incarcérés par l'État malien dans des prisons avec des adultes. Le rapport d'Amnesty International, qui présente les conclusions d'une mission de recherche menée au Mali en juin 2014, détaille ces abus. Gaëtan Moutou, principal chercheur d'Amnesty International sur le Mali, revient sur ce document.
Ce que nous avons pu observer au travers de différentes missions effectuées à la fois depuis 2012 et lors de la dernière mission en juin 2014, c'est qu'il y a une constante au Mali. Depuis le début du conflit en 2012, il y a des enfants, dont des adolescents, qui ont été recrutés à la fois par des milices pro-autorités maliennes et ensuite par des groupes d'opposition armée, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ces deux groupes armés ont utilisé des enfants soldats pour aller combattre lors du conflit dans le Nord Mali. Et à la suite de l'intervention française et africaine en janvier 2013, plusieurs enfants, certains n'avaient aucun lien avec le conflit, ont été arrêtés et détenus à la fois à la prison civile de Bamako et ensuite au camp 1 de la gendarmerie. Ces mêmes enfants étaient détenus en compagnie d'adultes, ce qui est contraire aux instruments internationaux sur la protection de l'enfant ratifiés par les autorités maliennes. De plus, les autorités maliennes s'étaient engagées auprès des Nations Unies à remettre tous les enfants arrêtés en lien avec le conflit à des organismes de protection de l'enfance.
Et vous avez des mots relativement durs pour le gouvernement malien que vous accusez de bafouer les droits humains.
En fait, derrière les mots, il y a autre chose. C'est parce que les autorités maliennes ont ratifié des conventions internationales et nous demandons aux autorités maliennes de respecter les engagements qu'elles ont pris vis-à-vis de l'opinion internationale et vis-à-vis de leur propre gouvernement.
La délégation d'Amnesty a enquêté sur les affrontements qui ont eu lieu en mai 2014 à Kidal.
Nous demandons à ce qu'il y ait une enquête, puisque d'après l'accord qui a été signé entre les groupes armés et les autorités maliennes, il y a une commission d'enquête internationale qui devait être constituée pour faire la lumière sur ces événements. Et donc, nous demandons la mise en place de cette commission afin de faire la lumière sur ces événements et que les responsables de ces homicides soient poursuivis par une justice.
Gaëtan Moutou, principal chercheur d'Amnesty International sur le Mali, au micro de Camille Grosdidier.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Au Bénin, le gouvernement, par décision prise en Conseil des ministres, vient d'instaurer la boîte pharmaceutique pour les engins à deux roues. Cette mesure, interprétée par les motocyclistes comme une de plus pour s'acharner sur eux, suscite assez de remous au sein de la population. Des voix s'élèvent pour demander au gouvernement de revoir sa copie, nous dit notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
Le gouvernement béninois, toujours à la trousse des propriétaires d'engins à deux roues. Pour garantir leur sécurité, l'État béninois vient de décider de l'instauration d'une trousse pharmaceutique de secours pour tous les engins à deux ou à trois roues, dont le contenu a été signé par arrêté signé de quatre ministres. Les ministres de l'Intérieur, de la Défense, de la Santé et des Transports. Il n'en fallait pas plus pour faire dire à certains béninois que le gouvernement use de tous les subterfuges pour éliminer les motocyclistes de la circulation au Bénin. Écoutons quelques-uns d'entre eux, rencontrés à Cotonou, se prononcer sur la pertinence de la mesure.
Nous ne savons pas qu'est-ce que ce gouvernement nous veut. Ils ont parlé de pistes cyclables. On est rentré dans les pistes cyclables. Nous ont parlé des casques. On a pris les casques. Ils ont parlé d'assurance. Ils ont parlé d'immatriculation. On n'a même pas encore fini. Maintenant, on vient nous parler de trousses. Qu'est-ce qu'on va faire avec les trousses? Nous ne sommes pas des chirurgiens ou des infirmiers. Si ce gouvernement veut plus qu'on conduise les motos dans ce pays, qu'ils nous disent qu'on aille garer nos motos et marcher à pied pour aller au service. Malheureusement, même, il n'y a pas de trottoir pour pied.
Où est-ce qu'on va poser cette boîte à pharmacie? Même si on prend les motos mat par exemple là, on va poser ça où? Même les scooters, quelle est la place qu'il y a? Parlant du contenu des boîtes à pharmacie, on a parlé de bistouri, de ciseaux. Si au cours d'un échauffouré ou bien, par exemple, des fois on voit dans la circulation, les gens se cognent et en viennent aux mains. Les gens peuvent prendre ça pour se blesser. D'autre part, on n'a pas encore fini avec la période des casques. Le Béninois que nous sommes n'arrive pas à s'offrir un seul repas par jour. Il y a des gens qui n'ont même pas 100 francs pour se payer même le petit pâté pour calmer leur faim. On n'a pas fini avec la période des casques. Bientôt, ça serait la période des plaques. On n'a pas fini avec ça. Maintenant, on vient avec l'histoire des boîtes à pharmacie. Les quatre n'ont qu'à revoir leur position.
C'est une prière que nous fassions, que chaque fois nous tombons sur la voie pour que nous puissions utiliser ces boîtes à pharmacie-là ou quoi. Bon, moi, je ne sais pas. Pour moi, bon, c'est une décision à revoir.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Bénin, sur Fraternité FM à Parakou.
La répression des émeutes à Ferguson, dans le Missouri, après la mort d'un adolescent tué par la police, a semblé disproportionnée aux yeux de la majorité des observateurs. La police a fait usage de véhicules blindés et de fusils d'assaut, comme dans une opération militaire. Le ministère de la Défense, le Pentagone, qui a fourni les équipements à la police, est sur la sellette, Jean-Roger Bion.
Sommet de s'expliquer, le Pentagone évoque un programme mis en place pour disséminer des équipements militaires en excès aux administrations de police qui en font la demande, et cela en vertu d'une loi votée au Congrès. L'amiral John Kirby est le porte-parole du Pentagone.
We don't push equipment on anybody.
Nous n'obligeons personne à prendre ces équipements. C'est le surplus de nos dotations pour lesquelles le contribuable a déjà payé. Et il est mis à la disposition des départements de police s'ils veulent et ils sont qualifiés pour les recevoir.
Le Pentagone affirme avoir remis aux policiers de la ville de Ferguson et du comté de Saint-Louis certaines armes de guerre pour Jason Fritz, un ancien officier de l'armée, aujourd'hui spécialisé dans les opérations internationales de police. Ce type d'armement est inadapté pour le maintien d'ordre. Jason Fritz qualifie d'irresponsable le programme du Pentagone.
C'est très dangereux et cela va à l'encontre des règles en la matière. Nous pensons qu'en plus de donner l'équipement, il devrait accorder ne serait-ce que quelques semaines de formation sur la façon d'utiliser ce matériel. C'est la moindre des choses et ça, ce n'est pas négociable. Vous devez associer à cette militarisation la formation inhérente au lieu de favoriser le bricolage.
Le Pentagone se défend de prescrire la façon dont les polices locales devraient utiliser les équipements qu'ils leur donnent. Et au-delà du cas de Ferguson, le ministère américain de la Défense évoque des succès ailleurs où l'approvisionnement des polices locales en matériel militaire a permis de sauver des vies et de protéger des civils. Le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a commencé une évaluation interne du programme autorisé par le Congrès et pour sa part, William Clay, représentant du comté de Saint-Louis, envisage de rencontrer M. Hagel pour discuter des préoccupations sur l'utilisation de matériel militaire sans formation adéquate.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, le spectre du racisme refait surface aux États-Unis après la mort d'un jeune Africain-Américain tué par un policier blanc à Ferguson. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le Rwanda veut faire appel de sa disqualification pour la course à la CAN 2015 par la CAF.
Oui, le Congo éliminé sur le terrain avait déposé une réserve après le match aller à l'encontre de l'attaquant rwandais d'origine congolaise Dadi Birori pour une question d'identité. Il avait été suspendu le 11 août par la CAF. Le Congo, entraîné par Claude Leroy, est officiellement repêché et doit évoluer dans le groupe A avec l'Afrique du Sud, le Soudan et le Nigeria pour ses éliminatoires de la CAN.
Sud des barrages allés de la Ligue des Champions hier.
Le FC Porto s'impose à Lille 1-0. Autre victoire à l'extérieur sur le même score, celle du Zénith Saint-Pétersbourg sur la pelouse du Standard de Liège. Pour le reste, que des matchs nuls un partout entre Maribor et le Celtic Glasgow, entre Albor et le club chypriote d'Apoel et entre le Slovan Bratislava et le Baté Borisov.
Transfert.
Le gardien international brésilien Julio César a signé au Benfica à Lisbonne pour 2 saisons. Le portier de 34 ans qui s'était notamment illustré au Mondial brésilien lors de la séance de tir au but face au Chili en 8e de finale évolué jusqu'à présent à Toronto.
L'UEFA ouvre une enquête disciplinaire contre le président de la Fédération italienne de football pour propos racistes présumés.
Carlo Tavecchio, qui avait déclaré le 25 juillet dernier lors d'une réunion publique au Petit Pobba, est arrivé ici et avant il mangeait des bananes. Aujourd'hui, il joue titulaire à la Lazio de Rome. Ses propos semblant viser le milieu de terrain français de la Juventus de Turin, Paul Pogba, avait créé une vive polémique en Italie.
Enfin, parlons d'Usain Bolt.
Oui, le sprinteur jamaïcain sextuple médaillé d'or olympique dont le retour à la compétition est prévu le 28 août à Zurich après un problème à un pied, affirme être sûr de pouvoir faire mieux sur les pistes.
Merci Nicolas. On passe à la page musicale avec Roger Montou. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Luther Vandross était chanteur et compositeur américain de R&B et de soul. Il a vendu plus de 25 millions de disques pendant sa carrière et gagné 8 Grammy Awards, dont le meilleur chanteur R&B 4 fois. Sa chanson Dance With My Father, coécrite avec Richard Marx, a été la meilleure chanson de l'année 2004. On écoute ce matin Dance With My Father.
Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved.
C'est à l'âge de 24 ans, en 1975, que Luther Vandross, né à New York, avait croisé David Bowie, qui lui avait demandé de faire le choriste dans son album Young Americans.
Oui, Drissa, le chanteur à la voix douce et chaude avait ensuite assuré la première partie du Thin White Duck sur scène. Il avait autofinancé son premier album en 1981, Never Too Much, après s'être vu claquer la porte au nez par les maisons des disques. Pas du tout facile quand on vient de commencer.
Luther Vandross, Dancing With My Father. Merci Roger.
De rien Idrissa, un coucou à notre fidèle auditeur Dikita Makuba Kuba Dieudonné en Belgique.
Roger Montou, retrouvez-le dans le RM Show à 20h temps universel.
He make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never ever end. 'Cause I'd love, love with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even. This is all I ever dream.
monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition de 5h30 temps universel. Merci à Anne Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.